Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Emmanuel André, le directeur général de l'Opéra de Bordeaux et je suis ravi de vous accueillir. Je voulais absolument être là avec vous pour lancer cette nouvelle série de conférences que nous avons imaginée et programmée avec Denis Mola, qui est un partenaire de l'Opéra très précieux. Avec lui, nous avons beaucoup parlé de culture, de musique, de littérature, de philosophie, de politique et avons convenu que tous ces mondes doivent dialoguer sans cesse. Et notre idée était toute simple. Il s'agissait de proposer à des musiciens qui ont écrit, qui ont pensé sur des sujets divers, d'aller dans la librairie Mola à Bordeaux et à l'inverse, d'inviter à l'opéra des penseurs, des penseuses de tous horizons pour montrer que tout ce que nous pouvons programmer ici à l'opéra, ce n'est pas forcément du divertissement. Bien sûr, il y a du divertissement, mais il y a aussi des grands sujets qui sont soulevés par des sujets d'opéra. Cette année, par exemple, nous ouvrons la saison avec Madame Butterfly, sujet très, très lourd sur la possible communication entre la culture orientale et occidentale, mais ça se termine en drame. Est-ce qu'il est possible de communiquer entre les deux ? Le deuxième opéra, c'est celui de La Favorite de Donizetti, qui pose la question, grâce à la mise en scène de Valentina Carrasco, de la question de l'enfermement de la beauté. Est-ce que les femmes sont enfermées dans une beauté ? Est-ce qu'on peut accepter d'autres beautés que celles des canons qui nous sont proposés chaque jour et qui conditionnent la vie des femmes ? Et puis le dernier opéra, c'est celui de Francis Poulenc, Le dialogue des Carmélites. Ce sont des religieuses qui, pendant la Révolution française, finissent par être exécutées parce qu'elles ne veulent pas renier leur foi. Et ça pose la question peut-être plus générale, au-delà des femmes et de leur communauté, du rapport entre une république et la possibilité d'exercer sa croyance, quelle qu'elle soit. Donc, juste ces quelques mots pour vous dire combien je tiens à ce que les pensées puissent trouver une place ici. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je suis très honoré d'ouvrir cette série de conférences avec Fabienne Brugère. À cette occasion, je vous souhaite de très bons débats. Merci.
Merci Emmanuel André. Donc, on va effectivement passer une petite heure avec Fabienne Brugère autour notamment du peuple des femmes, mais peut-être, et on y reviendra pas seulement. Fabienne Brugère, quelques mots, même si peut-être ici on vous présente moins qu'ailleurs. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie aujourd'hui à l'Université Saint-Denis, Vincennes-Saint-Denis, donc Vincennes. Université, lieu historique de la philosophie française. Vous avez été longtemps professeur de philosophie à Bordeaux. Vos spécialités, c'est plutôt les questions d'art, d'esthétique, de politique morale, mais aussi évidemment de féminisme, hein, puisque ça s'inscrit aujourd'hui, cette intervention, dans un cycle autour de la question du féminin. Vous n'êtes pas qu'une philosophe de laboratoire ou de bibliothèque. Vous êtes aussi une femme qui prenait des responsabilités, des charges, puisque vous êtes présidente de Paris Lumière, c'est ça, je crois. Et également, vous avez exercé des commissions plus proches de nous, de commissaire d'exposition à Arc en Rêve sur l'exposition Constellation, ou présider une instance de citoyens ici à Bordeaux Métropole. Peut-être avant de rentrer directement dans le peuple des femmes, dire et situer un petit peu ce travail dans votre œuvre plus globalement, et on va faire un parcours rapide autour de quatre de vos ouvrages ou des concepts que vous avez pu travailler. Donc d'abord peut-être sur un certain nombre de notions philosophiques, et alors celui-ci je ne l'ai pas apporté, mais la question du soin, de l'éthique du soin que vous avez abordé dans Le sexe de la sollicitude, comment cette question du soin est venue à vous et comment vous l'avez resituée dans votre philosophie autour du féminisme ?
Bonsoir ou bonjour, parce qu'il fait encore très beau. Alors, sur la manière dont je suis venue au féminisme par le soin, il faut pouvoir préciser plusieurs choses. J'ai pas tant travaillé sur le soin que sur une notion anglo-américaine dont on commence à parler d'ailleurs maintenant un peu partout, le care, et qui est une notion un peu plus large que ce qu'on entend par soin en français. Parce qu'en fait, le care, c'est à différencier en anglais du terme de cure. Cure, c'est ce qui renvoie à la maladie et à la possibilité de la guérison, donc finalement au projet d'une science médicale, on pourrait dire, je suis malade, je me guéris, enfin on me guérit. Et puis de l'autre côté, le care, c'est davantage ce qui met l'accent sur la dimension relationnelle du soin. C'est-à-dire le fait que, par exemple, si j'ai une maladie chronique, eh bien, quelqu'un me soignera régulièrement ou je me soignerai régulièrement, et ça induit, bien sûr, la figure de la relation qui se dessine dans le soin. Et cette question du care, elle a été énormément travaillée d'abord aux États-Unis et puis au Royaume-Uni, en termes de critique au néolibéralisme dans les années 1980 et puis un petit peu après, donc en critique au gouvernement, par exemple, de Thatcher au Royaume-Uni, puis après de Reagan aux États-Unis, qui était ce néolibéralisme qui défendait un individu performant, qui se réalise dans le marché, calculateur, enfin une nouvelle figure de l'homo economicus. Et le care s'est pensé à ce moment-là comme la possibilité, on pourrait dire, pour faire vite, d'une société alternative qui serait finalement une société du care, une société du prendre soin, qui remettrait finalement l'humain, on pourrait dire comme ça, au centre de la société d'une part, mais qui montrerait aussi toutes ces activités de care, de soins, qui sont généralement invisibilisées et qui sont très largement accomplies par des femmes, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des infirmières, des assistantes sociales. Hein. On sait que 80% des assistantes sociales sont des femmes. Ce sont à peu près les mêmes chiffres pour les infirmières, en tout cas en France. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et ce travail allait aussi avec la possibilité de repenser la modernité, de repenser à la fois la figure de la rationalité et de promouvoir une figure de la raison qui n'est pas seulement une raison abstraite ou une raison qui calcule, mais qui est une raison habitée par ses émotions. Et donc, dans ce courant du care, il y a tout un travail sur ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle et le fait de dire que l'intelligence se construit avec les émotions. Alors moi, ça m'allait assez bien, ça, parce que comme j'ai beaucoup, au départ, travaillé sur l'art, et en particulier sur la peinture, forcément, cette idée d'intelligence émotionnelle et l'idée qu'il y a de l'intelligence dans l'art, c'est forcément, mais qui passe par le sensible, c'est forcément quelque chose qui m'est vraiment familier. Et cette intelligence émotionnelle, elle m'a aussi conduite à la question des femmes et au fait qu'on assigne souvent les émotions, les sentiments aux femmes, aux féminins. Et cela, c'est particulièrement vrai, d'ailleurs, si on essaie de le dater, on peut vraiment dire que ça se date un peu autour du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où on a à la fois des théories du contrat social qui vont vraiment partager un espace public, celui de la politique, et puis un espace privé, domestique, celui de la famille. On va assigner le second précisément aux femmes, et donc on va faire aussi de cet espace de la famille, de cet espace domestique, le lieu de l'affectivité, des émotions, des sentiments, des bons sentiments. Donc quand j'avais écrit Le sexe, la sollicitude, c'était vraiment dans la perspective d'interroger cette assignation et de voir comment la question de la sollicitude et donc ces questions finalement d'un prendre soin des autres, on pouvait tenter de les penser autrement qu'en termes de partage entre les hommes et les femmes. Comment on pouvait les penser, on pourrait dire, en termes de genre humain.
Et pensez encore là aussi peut-être un autre de vos ouvrages qui revient revisiter une notion ou la réinterroger à partir du prisme féministe, c'est le petit opus dans la collection donc, de la République des idées que vous avez publié sur la politique de l'individu, ou finalement peut-être un autre sujet que vous abordez également dans Le Peuple des femmes sur le personnel et politique. Enfin, on voit bien que s'intéresser à l'individu, ce n'est pas forcément renoncer à la question politique.
Alors le personnel est politique, de toute façon on le voit tous les jours actuellement. En tout cas, le personnel est devenu politique puisque toutes ces affaires qui sont à la tête d'affiches des journaux et qui font tomber des têtes politiques nous prouvent bien que le personnel est politique. Alors le personnel est politique, c'est d'abord une idée... Qui naît dans les années 70, alors largement dans le cadre du féminisme. Elle naît d'abord en fait aux États-Unis, the personal is political, et il y a vraiment cette idée que précisément nos vies qu'on appelle privées ne sont pas des vies privées, hein, parce que précisément elles sont habitées par des rôles, par des stéréotypes, par des rapports de pouvoir. Et donc, le privé, il est lui-même habité par la place que l'on assigne aux femmes, par la place des hommes. Et donc, le point de départ, c'est ça. La suite c'est le mouvement féministe. Et c'est le fait, tout bêtement, que les femmes se rendent compte, toujours, dans les mouvements politiques, même dans les moments de révolte, de mouvements sociaux, que les femmes sont toujours à la cuisine. Finalement, les femmes, elles sont à la cuisine, et c'est bien une place politique qui est précisément une non-place qu'elles n'ont pas choisie. Donc, dans l'idée que le personnel est politique, il y a l'idée que justement, il faudrait que les places soient autrement. Et puis, il y a aussi cette idée que, justement, il faut se préoccuper de ces places-là que l'on appelle privées et qui, en fait, sont habitées par ce qu'on pourrait appeler une violence du genre. Donc, je crois que ça, c'est de plus en plus présent dans nos sociétés et que, forcément, les réseaux sociaux... La force des images, les réseaux de communication ont amplifié ce rapport entre le privé et le public et ont brouillé de toute façon les frontières elles-mêmes entre ce qu'on appelle le privé et ce qu'on appelle le public, jusqu'au point peut-être où finalement la place même de l'intimité, de ce qu'on peut vivre en tant que vie intime, eh bien, elle devient finalement extrêmement difficile.
Alors, encore deux petits détours avant de revenir vers le peuple des femmes. Là, on a plutôt vu quelques éléments de notions que vous travaillez, mais vous êtes encore une fois, comme je l'ai illustré au démarrage, vous êtes quand même une philosophe engagée. Et d'ailleurs, la question du care vous a confronté à cette adversité, cette violence hein, aussi, du fait d'amener, de venir réinterroger un certain nombre d'éléments autour du féminisme, quand bien même ne le faites pas de manière belliqueuse. Et je pense à ce que vous avez développé dans l'entretien que vous avez eu avec Élodie Moreau dans « Qui a peur des philosophes ?» hein, le titre dit bien l'objet. Peut-être dire quelques mots sur le fait qu'être philosophe du féminisme, c'est aussi être un acteur engagé, un intellectuel engagé peut-être.
Bah, de toute façon, quand on est dans une discipline comme la philosophie... C'est assez compliqué d'être une femme, et encore, puisque si on reprend toute l'histoire de la philosophie telle qu'elle a été instituée et telle qu'on la connaît, on peut dire qu'il n'y a quasiment que des hommes parmi les philosophes, et ce n'est que très récemment que l'on parle de Hannah Arendt, que l'on parle de Simone de Beauvoir, et encore Simone de Beauvoir, c'est souvent assez compliqué. Il y a des gens qui continuent de nous dire mais c'est pas une philosophe, c'est une écrivaine, c'est une anthropologue, mais certainement pas une philosophe. Et puis il y a maintenant un certain nombre aussi de philosophes américaines comme Judy Butler, Martha Nussbaum et d'autres. Puis il y a aussi des philosophes françaises et dans bien d'autres pays. Hein, mais l'histoire de la philosophie, elle est quand même extrêmement masculine. Donc comment on s'approprie, en tant que femme, on s'approprie une discipline où tous les exemples sont des exemples masculins, c'est forcément une question que l'on est amené à se poser, même si l'institution et l'histoire fait tout pour qu'on ne se pose pas cette question, puisqu'en plus la philosophie, elle a quand même été très régie pendant longtemps par l'idée de l'universel, de la neutralité, l'idée qu'un discours philosophique, c'est un discours sans sexe et sans genre. Enfin, c'est quand même... De ce point de vue-là, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le début de « Troubles dans le genre » de Judith Butler, où Judith Butler repart finalement des méditations métaphysiques de Descartes, donc 17e siècle, ce moment où Descartes creuse sa propre subjectivité à travers la figure de la méditation pour en arriver à l'idée que être, c'est penser, et donc je pense. Et Judith Butler interroge la métaphysique cartésienne et le je pense en disant mais c'est très étonnant ce je pense qui ne pose finalement jamais la question de son sexe ou de son genre. Et ce texte-là de Judith Butler, qui est vraiment tout au début de Troubles dans le genre, et qui pose finalement cette idée, et si on introduisait finalement la question sexuée et la question sexuelle dans la position du jeu, y compris du jeu qui pense. C'est fou de penser finalement qu'on a attendu la fin du XXe siècle pour pouvoir adresser cette question-là à Descartes. Attention, je ne dis pas que Descartes aurait dû le penser, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il est assez étonnant de se dire qu'on a attendu aussi longtemps, parce qu'il est bien évident que si l'on croit à la perspective que l'intelligence est émotionnelle, eh bien l'intelligence, elle se construit aussi avec nos corps et avec le fait que nous sommes des sujets sexués. Et à ce moment-là, on change complètement la perspective du sujet.
On voit effectivement donc là que le fait de réinterroger, c'est finalement stimulant.
Donc peut-être sur l'engagement, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'on est arrivé à un moment où c'est difficile... quand on est une femme philosophe, de ne pas se sentir engagée par la question sexuée et après par tout ce qu'elle peut porter aujourd'hui en termes de féminisme, en termes de déplacement des cadres qui ne vont bien évidemment pas de soi, mais les déplacements de cadres, ils se font pas. Et le fait que l'on essaie de sortir d'un certain nombre de normes patriarcales, ces déplacements, ils ne se font pas seulement dans l'espace de la société, ils se font aussi dans l'espace philosophique. Et, on doit aussi et donc l'engagement, c'est un engagement eu égard à la société, eu égard à des mouvances féministes, mais c'est aussi un engagement à l'intérieur même du champ philosophique.
Oui, donc c'est cette notion d'aller-retour, hein, que s'intéresser... à l'en-dehors de la philosophie, finalement, interroge la philosophie. C'est un peu, et donc ce sera le dernier détour, ce que sur la fin de l'hospitalité, vous entamez aussi comme chemin, puisque vous allez faire de la philosophie en allant voir ce qui se passe à Calais, notamment, que vous aurez repris dans Constellation. Donc peut-être dire aussi un mot de cette volonté d'aller au plus près des situations pour en voir ce qui s'y passe en termes philosophiques.
En fait, je ferai un détour. C'est-à-dire que la fin de l'hospitalité, je la repenserai volontiers à partir de ma lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et du moment où Simone de Beauvoir pose les femmes comme étant l'autre, à la fois l'autre de la société et l'autre de la philosophie. Et je crois que La fin de l'hospitalité, c'est un livre sur notre peur de l'altérité. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire que La fin de l'hospitalité a été écrit au moment de ce qu'on a appelé la crise d'accueil des migrants en Europe, 2015-2016. Et la différence à ce moment-là, d'ailleurs, entre les positions politiques de la France et de l'Allemagne. C'est le moment où Angela Merkel décide d'ouvrir les frontières, en particulier justement à la Syrie, au nom du droit international. Et c'est le moment où le gouvernement français prend une position différente, dont le fameux discours de Manuel Valls à Munich. Et donc, nous avons voulu nous interroger sur, finalement, notre difficulté collective, mais surtout la difficulté de nos gouvernants aujourd'hui à envisager la possibilité d'une hospitalité politique, alors même que l'hospitalité, elle est vraiment inscrite dans nos histoires culturelles. Que l'on revienne à des histoires culturelles comme celle de la Grèce ancienne, ou que l'on revienne à des histoires qui ne sont pas celles de l'Europe, en Iran ou ailleurs. Hein, la question de l'hospitalité dans le monde perse, elle a aussi une histoire incroyable. Donc c'est un livre sur toutes les altérités qui nous font peur et qui sont finalement du coup, et qui organisent et qui font que s'organise un pouvoir politique qui finalement refuse toute possibilité d'une acceptation de l'altérité. Alors bien évidemment après, c'est aussi un livre sur le Caire justement et sur le fait, lorsque nous sommes allés plusieurs fois à ce qu'on appelait la jungle de Calais avant qu'elle soit démantelée, eh bien il n'y avait pas seulement ces pratiques de Caire des associations à l'égard des migrants ou des exilés, mais il y avait aussi toutes ces pratiques de care de toutes ces personnes, les unes à l'égard des autres, de tous ces exilés, les uns à l'égard des autres, souvent d'ailleurs par communauté afghane. Quand un nouvel Afghan, une nouvelle Afghane arrive, on lui apprend un certain nombre de choses. Enfin bref, comment s'organise ce qu'on pourrait appeler des politiques des vulnérables, qui sont des politiques de care et de solidarité, dont on ferait bien souvent finalement de s'inspirer par-delà nos individualismes qui ferment souvent des portes, aussi sans doute parce qu'on est dans une société fragilisé et qu'on pense qu'il faut se protéger, que fermer des portes, on pense que ça permet de se protéger. Or non.
Alors, fermer des portes, et on va rentrer vraiment maintenant dans le peuple des femmes, c'est le contraire que vous faites dans le peuple des femmes, c'est que vous allez aller les ouvrir. Et peut-être pour chercher à comprendre la place, on l'a vu d'un certain nombre de points d'ancrage qu'a votre travail, pourquoi cette idée d'élargir la scène finalement au monde. Enfin, vous aviez évidemment pas un féminisme hexagonal ou exclusivement alimenté par une philosophie française, mais là c'est évident que c'est tout le globe que vous allez parcourir à travers ce travail.
Enfin, tout le globe.
Bon, une belle partie en tout cas.
En tout cas, on est parti de deux choses. D'une part, du fait que l'oppression des femmes, elle existe partout dans le monde et qu'elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle tient bien à un système patriarcal, à des cadres qui existent sous des formes différentes, mais plus ou moins, plutôt plus, partout dans le monde. Ça, c'est la raison pour laquelle On a voulu faire ce tour du monde, parce que l'oppression des femmes, c'est fou de penser qu'elle existe partout et puis qu'elle a plus ou moins aussi toujours existé. Donc c'était ça qu'on avait en tête. Et puis on avait en tête une deuxième chose, bien sûr, bon, on en parle beaucoup en ce moment, c'était MeToo, et puis le fait qu'il nous semble que depuis cette vague MeToo, hein, eh bien, il y a quand même un grand bouleversement de parole, en tout cas, dans un certain nombre de pays. Et puis ensuite, il y a surtout un peu partout dans le monde, en fait, des mouvements féministes. Des mouvements féministes qui n'existaient pas pour beaucoup il y a 10 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a, même si je n'aime pas forcément l'expression, il y a bien une nouvelle vague féministe, une sorte de vraiment de déferlante féministe transnationale, bien sûr, qui est plus facile dans certains pays que dans d'autres, mais il y a une volonté de sortir des cadres, de sortir des cadres patriarcaux, et c'est particulièrement vrai dans de nombreux pays, chez dans vraiment les jeunes générations.
Et donc justement, c'est ce qui est peut-être là, on va rentrer dans un certain nombre de grands thèmes de ce travail. Ce qui réunit quand même à l'origine, et ce qui est très fort dans le livre, l'ensemble de ces mouvements, hein, vous allez être aussi très vigilant, hein, quand même, à être au plus près, à ne pas hiérarchiser ces mouvements, à les écouter vraiment pour ce qu'ils sont, et à ne pas vouloir faire, vous le dites joliment, de la philosophie dans le dos des mouvements féministes. Néanmoins, ce qui les réunit tous, c'est la violence. Hein. Je dois citer le chiffre qui donne le vertige, hein, que vous citez dans l'ouvrage. C'est-à-dire, sur une année, c'était en 2017, c'est 87 000 femmes qui sont tuées. Et effectivement, vous prêtez au jeu du, j'allais dire, bête, enfin, tellement il est violent, du calcul. Hein, c'est-à-dire, sur 10 ans, c'est 87 000. Sur un siècle, c'est 8,7 millions. Enfin, c'est donc quand même un livre sur la violence, hein, puisque ce phénomène des féminicides, il est vraiment présent de manière très large. Et peut-être que vous pouvez nous en parler à travers le mouvement Ni Una Menos, pour montrer que, comme vous le disiez, c'est présent partout. C'est peut-être plus facile à certains endroits qu'ailleurs, mais néanmoins, même là où c'est pas facile, et peut-être justement parce qu'il est encore plus violent, parce qu'il est risqué, la lutte contre les féminicides est aussi présente et anime le mouvement féministe.
Oui, alors, on sait qu'en France, en moyenne, c'est une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups d'un compagnon ou d'un ex-compagnon. Disons que si on reprend le terme de féminicide, c'est un féminicide tous les 3 jours. En Argentine, c'est un féminicide toutes les 30 heures. Et on pourrait bien sûr citer bien d'autres pays. Il y a aussi le Mexique, en particulier cette fameuse ville frontière entre cette fameuse ville frontière du Mexique qui s'appelle Ciudad de Juárez, qui, il y a vraiment les États-Unis qui sont de l'autre côté, où il y a eu de véritables génocides de femmes. Alors là, c'était pas forcément des conjoints ou d'ex-conjoints. C'est un lieu qui est régi par les narcotrafiquants, par un pouvoir politique très corrompu, et on a retrouvé vraiment des charniers de femmes qui avaient été ensevelies ou dans les poubelles. Et il y a d'ailleurs une anthropologue qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Rita Segato. Il y a un de ses livres qui est traduit en français, la guerre aux femmes, et qui montre comment tout cela est très systémique. Donc oui, les féminicides. Alors les féminicides, c'est un grand découragement. Hein, c'est un grand découragement parce que on a l'impression que rien ne bouge, qu'on a pourtant de plus en plus de statistiques. Qu'on a aussi en France, on en parle dans le livre, tous ces mouvements de collage. Hein, je sais qu'il y en a à Bordeaux. Il y a collage féminicide à Paris qui est un mouvement particulièrement dynamique, mais avec beaucoup de lassitude aujourd'hui, parce que toutes ces jeunes, souvent, c'est souvent des jeunes féministes, elles ne collent pas pour s'amuser. Elles collent depuis globalement 2017 parce que ça n'arrête pas les morts précisément de femmes dans ces conditions. Et donc, il faut quand même dire qu'il y a malgré tout une absence vraiment d'action des pouvoirs publics. Il y a une justice qui a quand même du mal à changer. On sait qu'en France, en fait, très très peu, en ce qui concerne les féminicides, mais plus encore en ce qui concerne les viols, le harcèlement, la justice a beaucoup de mal finalement à délivrer des peines. Donc c'est une société qui s'organise, c'est des mouvements féministes qui s'organisent pour alerter. Alors c'est particulièrement vrai en Argentine. Et en Argentine, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un mouvement féministe de masse qui naît autour de la question des féminicides dans les années 2015, 2016, 2017, à partir d'un nom qui est poignant, Ni Una Menos, pas une de moins, hein, on ne veut plus que des femmes meurent. Et ce mouvement féministe, ben, il se structure dans la rue. Il se structure dans la rue, sur les places publiques. Il se structure à la fois dans des grèves qui deviennent des grèves générales au sens féministe du terme, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas seulement de travailler dans les usines ou dans les bureaux, mais on arrête aussi de travailler à la maison, on arrête justement de faire la cuisine. Et ce sont des grèves féministes qui passent en même temps de l'Argentine à la Pologne, à l'Italie, à l'Espagne, à un certain nombre de pays, qui se concentrent sur la question des violences faites aux femmes, sur ce qu'on pourrait appeler un continuum féminicidaire. Hein, c'est une expression que Christelle Tarot a utilisé dans le gros livre qui vient de sortir sur les féminicides, c'est-à-dire que l'idée qu'il n'y a pas seulement les morts des femmes par leur conjoint ou leur ex-conjoint, mais il y a aussi toutes les autres morts de femmes, et puis il y a aussi toutes les femmes qui sont harcelées, violées, qui sont dans un climat finalement d'insécurité qui peut mener à la mort. Et donc, Ni Una Menos a vraiment mobilisé un nouveau féminisme sur cette question, on pourrait dire, du continuum des violences faites aux femmes. Et c'est vraiment un mouvement de masse, avec donc des grèves, des assemblées, des marches, des occupations, en particulier de la place du Sénat, au moment où se sont joués les débats sur l'autorisation de l'avortement, parce que ce qui s'est passé aussi en Argentine, c'est que tous ces mouvements, qui étaient plutôt des mouvements de jeunes femmes autour des violences faites aux femmes, ils se sont en fait coordonnés avec des mouvements plus anciens qui étaient des mouvements vraiment de défense du droit à l'avortement. Et en fait, on a de ce point de vue-là un mouvement féministe extrêmement large en Argentine qui, également, bien sûr, n'est pas sur l'idée de la femme hétérosexuelle, mais qui est sur l'idée aussi de les femmes, les lesbiennes, les trans, et puis il y a même une ouverture à toutes les questions de précarité, c'est-à-dire l'idée que finalement, ces mouvements féministes, ils naissent autour des rapports de domination, de la figure des dominés, et qu'ils peuvent donc s'élargir aussi à d'autres modes de domination. Et donc, c'est vrai que l'Argentine, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressante. Et on sait aussi qu'il y a toute une, comment dire, une visualisation du mouvement argentin avec ce foulard vert que les femmes, en tout cas que les manifestantes, portent dans les marches, dans les assemblées. Ces foulards verts que l'on a vus, d'ailleurs, dans des manifestations après, dans d'autres parties du monde, il y a cette couleur du vert qui est aussi une couleur de ralliement de ces mouvements-là en Argentine.
Alors effectivement, on passe un petit moment là sur le mouvement Niuna Menos pour montrer encore une fois que ce livre et ce qui en fait sa richesse, c'est que c'est certes un ouvrage de philosophie, mais c'est encore une fois un ouvrage de philosophie qui part d'expérience. Donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes de philosophie, c'est quand même possible de le lire et de le comprendre. C'est ce que vous disiez, hein, sur une politique du meurtre des femmes. Hein, je crois que c'est Diana Russell et Jill Radford. Et donc peut-être on peut en venir aux relations aux institutions et montrer, puisque vous abordiez l'exemple de l'IVG, autre exemple sur lequel vous faites de nombreux développements, qui continue d'être d'actualité, hein, quand on voit effectivement la décision de la Cour suprême, dont vous peut-être nous dire un mot sur le fait que rien n'est jamais acquis.
Non, rien n'est jamais acquis. Et puis, je crois que finalement, il y a quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on peut citer, bien sûr, l'exemple américain avec... ce qu'ont pu induire les changements dans la composition de la Cour suprême. En fait, les féministes américaines, elles savaient depuis un petit moment que ça allait arriver, cette histoire, qu'elle allait arriver ce moment, du coup, où l'IVG allait être remise en cause. On peut se dire que la même chose peut nous arriver en Europe, c'est-à-dire qu'après tout, on va voir ce qui va se passer en Italie, mais en l'occurrence... Giorgia Meloni, qui est arrivée en tête des élections de la fin septembre en Italie, c'est quelqu'un qui est quand même sur la piste d'une limitation du droit à l'avortement. De la même manière, il y a des moyens plus insidieux. Après tout, on sait en France, en Allemagne, dans un certain nombre de pays européens, que de toute façon, il y a de moins en moins de lieux qui pratiquent l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a la question de la loi, mais il y a la question aussi après de l'application de la loi. Pour donner un exemple, par exemple, en Allemagne, entre les villes de Münster et de Dortmund, à Münster, il est impossible de trouver un quelconque endroit, hôpital ou clinique, pour se faire avorter. Il faut absolument aller à Dortmund. Et on peut bien sûr développer des exemples similaires partout. Aux États-Unis, on va avoir aussi cette sorte de circulation entre précisément les États qui vont continuer à pratiquer l'avortement et ceux qui justement vont profiter et profitent déjà de ce texte pour l'interdire. Et on sait que les personnes qui, dans ces cas-là, eh bien, sont les plus victimes de ces politiques, eh bien, ce sont les femmes les moins fortunées, les moins informées. Donc, oui, il y a un péril sur les droits des femmes et la question des droits reproductifs, c'en est vraiment un exemple intéressant, parce que la question des droits reproductifs, ça renvoie à la question du contrôle et du contrôle que les hommes veulent avoir sur les corps des femmes. Et ça, c'est une histoire malheureusement extrêmement ancienne, d'où les revendications des femmes d'avoir accès à leur corps et de pouvoir défendre une liberté dans le rapport à leur propre corps. Mais cette question du contrôle, elle revient toujours, et c'est quand même assez incroyable, l'avortement, de penser que ce sont généralement les hommes qui décident à la place des femmes pour quelque chose qui concerne avant tout le corps des femmes et l'avenir des femmes. C'est quand même incroyable qu'on fasse aussi parler les femmes sur ces questions-là et qu'on les écoute. Ça rejoint effectivement la perspective aussi de cette possibilité de l'écoute.
Et donc justement, pour faire le pont sur un autre axe important, donc encore une fois, c'est un ouvrage qui parle de la violence, mais c'est un ouvrage aussi qui montre bien en quoi les trajets nord-sud, vous l'avez évoqué notamment à travers peut-être la question des fouloirs verts, va réinterroger le féminisme lui-même, enfin que c'est une alliance entre le nord et le sud sur une redéfinition de la justice. Peut-être autour de cette question de l'IVG, hein, vous le montrez bien, comment en regardant l'IVG depuis le sud, et notamment sur ce que vous avez évoqué là, le fait que les femmes puissent, plus riches, aller se faire avorter au nord, là où les femmes pauvres peuvent difficilement se faire avorter au sud, vous montrez bien que le féminisme à partir du sud nous réinterroge sur par exemple la dimension du néolibéralisme et du capitalisme, enfin en tout cas qu'elle va réinterroger au-delà de la question politique du droit la question politique du modèle de société.
Oui, alors avec Guillaume Leblanc, parce que donc, c'est un livre vraiment qu'on a écrit à deux et c'est quelque chose qu'on a vraiment assumer cette ouverture. Oui, on a été dans parce que finalement, ça a vraiment été une enquête, hein, une enquête dans différentes parties du monde. Et je crois que notre grand étonnement dans cette enquête et la vérité qui a vraiment surgi, c'est que les mouvements féministes sont extrêmement vivants dans de nombreux pays que l'on appelle du Sud. Alors c'est particulièrement vrai dans des pays d'Amérique latine comme l'Argentine, comme le Chili, et puis c'est particulièrement vrai aussi si l'on prend en compte par exemple ce qu'on appelle l'écoféminisme, parce que l'écoféminisme c'est beaucoup le fait de lier la question des violences faites aux femmes et la question des violences faites à la terre, au sol. Et donc, l'écoféminisme, c'est une critique finalement assez radicale du capitalisme et de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme extractiviste, à la fois ce que Silvia Federici appelle le capitalisme patriarcal. Et forcément, les pays du Sud sont en première ligne là-dessus, parce que les multinationales, elles sont surtout extractivistes dans les pays du Sud. La déforestation de l'Amazonie, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement actif, d'extrêmement porté par des intérêts industriels, financiers très très importants, et ça correspond au Brésil, en même temps à des paysanneries qui essaie de se défendre, qui essaie de défendre les arbres, parce que aussi, ce sont des paysanneries qui vivent des arbres et qui donc luttent contre la déforestation. Il y a les mêmes choses en Inde et il se trouve que dans ces mouvements de lutte contre la déforestation, il y a beaucoup des femmes, parce qu'en fait, très souvent, les hommes trouvent un emploi dans ces multinationales, trouve un avantage finalement à quitter la gestion des forêts, qui est quand même la gestion aussi d'une économie de la subsistance qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et finalement, celles qui restent pour défendre les terres et pour défendre finalement des formes de culture, ce sont les femmes. Ce sont les femmes et ça correspond aussi d'ailleurs, en tout cas souvent en Amérique du Sud, à des populations qui sont aussi les populations qui étaient là avant la colonisation et qui ont à défendre aussi une histoire de la terre. Et derrière tout ça, il y a beaucoup de femmes. Et donc, l'écoféminisme met vraiment en avant une critique du capitalisme, une critique des intérêts financiers de quelques-uns qui se font au détriment de beaucoup, et donc met beaucoup en avant un féminisme du Sud qui n'est pas seulement un mouvement des femmes, mais qui est un mouvement finalement de critique du capitalisme au nom de ce qu'on pourrait appeler, j'ai envie d'appeler ça, des politiques de la vulnérabilité. C'est-à-dire, on est tellement vulnérables, femmes, mais aussi autres, hein, précaires, personnes qui vivent de ce qu'on a là, eh bien que on va le retourner en une politique de résistance. Et donc, c'est une partie vraiment importante de ce qu'on peut appeler aujourd'hui ce féminisme d'en bas, ce féminisme des mouvements, qui est aussi un féminisme qui lutte contre les formes du capitalisme actuel.
Et alors, je comptais l'aborder plutôt à la fin, parce que je trouve qu'effectivement, c'est tellement central, c'est vraiment une des notions très importantes, hein, cet écoféminisme, et qu'effectivement, on voit bien, mais c'est tellement indissociable, comme vous venez naturellement de l'aborder, du lien avec le Sud, qu'on va peut-être continuer à s'en préoccuper. C'est un mouvement contre, mais c'est aussi un mouvement pour. Enfin, vous le dites très fortement, ce n'est pas simplement une potesta, c'est une... Enfin, c'est une potentia, c'est-à-dire que c'est quand même... ça construit quelque chose, hein, et vous allez le dire sur d'autres mouvements féministes, ce n'est pas simplement un féminisme qui va se chercher à se protéger ou à évidemment lutter contre des hégémonies, lutter contre le patriarcat, mais qui propose quelque chose d'autre. Enfin, s'intéresser au féminisme, c'est aussi s'intéresser à un autre monde possible.
Oui, alors est-ce que c'est... Voyons par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran et le combat des femmes iraniennes à partir du décès précisément de Mahsa Amini. Les manifestations, d'après ce que l'on en sait, elles sont largement structurées autour du « abat la dictature » et donc, effectivement, La revendication d'une liberté et sans doute un appel à la démocratie. À la démocratie au sens déjà d'autres relations entre les hommes et les femmes et au sens où ce qui en devient le symbole, c'est ce voile que les femmes sont obligées de porter et qu'elles souhaitent et qu'elles veulent précisément ne plus porter. Donc, si vous voulez, là, on a bien un mouvement qui n'est pas dans ce qu'on appelle les pays du Nord, qui se joue précisément en Orient, mais qui se joue dans des conditions très dures parce qu'on a une dictature et que précisément l'idée... C'est de faire tomber la dictature et que cette dictature, elle a quand même correspondu avec ce qu'on peut appeler un apartheid sexué. De la même manière d'ailleurs qu'en Afghanistan aujourd'hui, avec les talibans, on a aussi un apartheid sexué. Donc là, dans ce cas-là, on est quand même sur la lutte contre un apartheid sexué, ce qui fait qu'en Iran, ce sont les femmes... qui sont donc du coup au cœur de la lutte contre la dictature. Et bien évidemment, comme il s'agit d'une lutte contre une dictature et d'un appel à la démocratie, ben, il y a aussi des hommes qui se joignent au mouvement. Mais effectivement, ce qu'on dit dans ce livre, parce qu'il a été écrit aussi avant, même si, attention, l'Iran, ça ne vient pas tout seul, hein, ça ne vient pas tout seul, parce qu'il y a un an, deux ans, il y avait déjà toutes ces jeunes iraniennes qui se filmaient enlevant leur voile avec la police des mœurs qui arrivait, et elles postaient précisément toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc il y avait quand même déjà beaucoup de choses en Iran, plus aussi... Beaucoup de femmes très, très éduquées qui n'ont plus envie de vivre comme ça. Mais effectivement, ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est qu'en particulier dans un certain nombre de pays, il y avait vraiment dans les combats féministes la demande d'un autre régime politique, la demande d'une autre société, l'idée qu'une alternative est possible. Et ça, c'est particulièrement vrai en Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, il y a quand même eu un néolibéralisme particulièrement sauvage. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui vivent de pas grand-chose, qui vivent d'une économie informelle et qui ont été totalement, on pourrait dire, exclus de tout ce qui se passe en termes précisément de financiarisation de l'économie. Donc oui, particulièrement l'Amérique du Sud, c'est vraiment le lieu où se projettent à travers les mouvements féministes des expérimentations politiques, l'idée qu'une alternative est possible et donc l'idée aussi que des unions sont possibles. Si on prend par exemple les textes de Véronica Gago et en particulier le texte qui s'intitule « La puissance féministe », c'est justement un texte qui évoque la possibilité de politique de la résistance et donc l'idée que les rapports de pouvoir, ce que l'on peut appeler effectivement la potestas, si on pense au texte de Spinoza, la potestas dans l'histoire, la philosophie, c'est tout ce qui renvoie à des rapports de pouvoir, donc à des rapports dominants-dominés, la manière dont la société établit finalement des rapports de domination et donc des cadres qu'il faut respecter. Donc ça, c'est cette notion de potestas, on la traduit par pouvoir, et c'est une notion dont Spinoza nous avait dit être dans la potestas, ça rend malheureux, ça rend triste. Et puis, dans les textes de Spinoza, en particulier dans l'éthique de Spinoza, il y a une autre notion qu'il appelle potentia, que l'on traduit généralement par puissance, et qui tient dans le fait que finalement, on peut arriver à se désassujettir, c'est-à-dire à mettre à distance ces rapports de domination, à résister et à affirmer finalement quelque chose d'autre que ces relations de domination. Et ça, on peut appeler puissance. On peut appeler ça puissance. Et donc, Véronica Gago, dans ce livre « La puissance féministe », développe l'idée que dans les mouvements féministes, on n'est pas justement sur la revendication d'un pouvoir, on ne veut pas s'insérer dans les rapports de domination tels qu'ils existent, mais on veut justement avoir une autre trajectoire collective de vie. Et ça veut dire que se constituent à travers le féminisme vraiment des modes de résistance, des modes de résistance qui doivent amener collectivement à vivre autrement et à imaginer d'autres systèmes que celui des modes de vie capitalistes.
Alors, cette puissance, parce qu'aujourd'hui, on est cet après-midi à l'Opéra, on va aborder quand même un peu les questions de culture, elle est très présente aussi, et ça va nous permettre de changer aussi de continent, puisqu'on va passer un peu plus du côté de l'Afrique. Elle est très présente autour du chant et des chanteuses, notamment, vous en citez un certain nombre, au Gabon avec Charlotte Diponda, au Congo avec Barbara Kahn, au Bénin avec Angélique Kidjo, qu'on connaît bien, en Tunisie avec Emel Malouti. Enfin, en tout cas, on voit bien que la culture permet aussi aux féministes de se battre et de résister en proposant un autre modèle. Est-ce que peut-être en dire quelques mots de ces différents mouvements de chant dans plusieurs pays d'Afrique ?
Sur la question des chants, on s'est beaucoup intéressé à plusieurs types de chants. On est reparti des analyses d'analyses anthropologiques qui sont faites dans des tribus bédouines, où en fait les observations ont pu montrer que dans des sociétés qui sont extrêmement patriarcales, il y a des moments où les femmes, elles se retrouvent entre elles, et puis elles chantent, elles lisent des poèmes, elles créent des poèmes, et de cette manière-là, elles se parlent entre elles. Et en fait, elles se disent entre elles, dans ces chants, vraiment, c'est toute une révolte contre le pouvoir des hommes. Elle décharge dans ces chants tout ce qu'elles ne peuvent pas dire dans le quotidien patriarcal. Mais on est bien dans des sociétés, en même temps, de la loyauté des femmes à l'égard des hommes, parce que ces chants, ils restent secrets et ils ne doivent pas sortir de la communauté des femmes. C'est vraiment un peu ce mouvement, on pourrait dire, de de l'expulsion du trop-plein des rapports de domination, mais dans une communauté fermée, ça ne déplace en aucune sorte l'ordre social. Et puis, on a beaucoup écouté avec Guillaume ces Amazones d'Afrique qui sont des chanteuses qui viennent de différents pays d'Afrique francophone et qui, dans leurs chansons, qui sont des chansons publiques, crient toute la manière dont précisément les femmes ne veulent plus des violences faites aux femmes, ne veulent plus d'excision, ne veulent plus être mariées quand elles sont petites, etc., etc. Ce sont des chants de résistance. Et là, ce sont des chants de résistance de femmes qui ont décidé de précisément faire du chant leur carrière ou leur vocation. Et ça, c'est particulièrement fort, hein, toutes ces chanteuses qui reprennent en même temps des musiques africaines traditionnelles qui, lorsqu'elles chantent, sont habillées dans des costumes africains traditionnels et qui, en même temps, se réapproprient de manière féminine et féministe leur propre culture. Il faut quand même dire que l'art et la culture sont quand même des monuments en matière de patriarcat. Je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé dans le domaine de la peinture. C'est très intéressant de prendre l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est un des rares mouvements picturaux où précisément les femmes réellement ont une place, où il y a vraiment de très très grandes artistes femmes et qui sont reconnues comme telles au moment de l'impressionnisme. Berthe Morisot, Marie Cassatt. Mais prenons par exemple Berthe Morisot. Berthe Morisot qui était une amie d'Édouard Manet et qui s'est d'ailleurs mariée avec l'un des frères d'Édouard Manet. Morisot, au moment de l'impressionnisme, elle est dans toutes les expositions impressionnistes. Lorsque Mallarmé écrit ses textes sur l'impressionnisme, il fait un texte sur Monet, un texte sur Manet, il en fait tout autant un sur Morisot. Et puis, c'est amusant de voir comment dans le parcours de l'histoire de l'art au XXe siècle, Berthe Morisot disparaît. Elle disparaît comme l'un des grands noms de l'impressionnisme. Et il faut attendre finalement quelques expositions aux États-Unis et puis l'exposition de 2019 au musée d'Orsay pour que tout d'un coup on redécouvre Berthe Morisot. L'art et la culture, en fait, à travers leur histoire, créent aussi des cadres simplificateurs et qui sont des cadres patriarcaux et qui du coup écartent en fait les femmes de la possibilité d'être des créatrices. Parce qu'il y a cette idée très forte, dans la culture occidentale particulièrement, que le grand créateur, le grand artiste est un homme. Hein, il y a des historiennes de l'art, en particulier nord-américaines. Il y a un texte de Linda Nochlin qui a été traduit en français. Pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes ? Parce que précisément, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Et si on prend alors le domaine de la musique, hein, c'est vraiment très récemment qu'on a des chefs d'orchestre femmes, et encore chefs, on continue de l'écrire au masculin. On a quand même beaucoup moins de compositrices connues que de compositeurs. Et de toute façon, tout le mouvement toujours de l'histoire d'un art fait tout, de toute façon, pour diminuer l'importance des femmes.
Fabienne, on va peut-être conclure et s'interroger peut-être sur la question générationnelle et de la relation des jeunes femmes au mouvement. Et peut-être que on peut, parce que c'est l'actualité qui nous en parle, aborder peut-être un peu MeToo et le fait qu'on le source à 2017, mais peut-être vous le dites bien dans le livre, vous en faites une autre généalogie, et que peut-être sur ce lien entre génération et ce type de mouvement, on peut dire quelques mots.
Ce que je dirais, en fait, c'est que le féminisme est un processus. C'est un processus qui prend du temps. Par exemple, MeToo, effectivement. MeToo, c'est, pour beaucoup de monde, 2016, l'affaire Harvey Weinstein. Mais en fait, MeToo, ça commence en 2006, d'ailleurs, avec Tarana Burke. Et donc, justement, avec des femmes afro-américaines qui se confient, des jeunes qui se confient à Tarana Burke sur des viols, sur des violences. Et tout d'un coup, Tarana Burke, qui elle-même a subi une violence enfant, se dit « moi aussi, toi aussi ». Et donc, c'est elle qui met en œuvre cette idée de « MeToo » sur l'idée, finalement, que les violences faites aux femmes, eh bien, sont systémiques. Et que, en fait, beaucoup de femmes, quand elles commencent à parler, se rendent compte que d'autres, finalement, ont subi le même type de violence. Et ce qui se passe aujourd'hui autour de l'affaire Poivre d'Arvor, c'est la même chose. C'est vraiment dans les paroles des victimes et dans les paroles des femmes, elles disent toutes la même chose. C'est à chaque fois, finalement, le même type de violence et le même type d'histoire. Donc, si vous voulez, il y a deux choses. C'est que déjà, les violences faites aux femmes, eh bien, finalement, elles sont malheureusement extrêmement banales. Et la prise de parole est importante parce qu'elle permet de se rendre compte que c'est inadmissible et que ça arrive, et que ça arrive à quasiment toutes les femmes. Donc ça, c'est l'importance de la parole qui permet de passer du statut de victime à celui, finalement, de résistante, je dirais, et qui donne aussi, hein, on a dit au moment de MeToo, politique de la survie, qui permet aussi de survivre, de se dire qu'on va pouvoir continuer à vivre et à ne plus vivre de la même manière. Et puis ensuite, il y a dans le fait que MeToo, c'est à la fois 2016, mais c'est aussi 2006, et ça continue encore aujourd'hui, il y a vraiment cette idée que le féminisme est un processus, et que c'est un processus qui dure dans le temps, qu'il y a des moments, en fait, on en parle plus, des moments on en parle moins. Mais si je reviens, par exemple, à l'Argentine, on sait très bien que ce qui rend aussi possible le féminisme argentin, c'est les maires de la place de Mai qui, au moment de la dictature, viennent manifester à Buenos Aires au titre de la disparition de leur fils. Donc il y a quelque chose qui a besoin aussi d'infuser. Et les choses ne viennent pas de rien. MeToo, ça ne vient pas de rien. Ni Una Menos, ça ne vient pas de rien.
Fabienne Bucher, merci de cette présentation, de cet engagement. Et donc, je vous encourage à lire Le Peuple des Femmes, qui, encore une fois, permet aussi de mettre de l'humain derrière des revendications et qui les rend finalement beaucoup plus dans le dialogue et moins dans la confrontation, peut-être, que d'autres espaces. Merci Fabienne Auger.
Merci Damien Michel. Et un grand merci au Grand Théâtre et à son directeur pour cet accueil.